9h10 à Port-au-Prince. Haïti paralysé, la contestation continue. Le Premier ministre peut-il rester à son poste? On en parle avec notre invité du jour. Le Brésil a 2 jours du premier tour de sa présidentielle. On sera en Amazonie. Et puis, le journal de la première ensemble, Benoît Ferrand, l'eau en Guadeloupe à la une.
Nous parlerons de la mise en service hier à Pointe-à-Pitre d'une unité mobile de traitement qui pourra fournir de l'eau au foyer touché par le passage de Fiona.
On se retrouve dans une quinzaine de minutes, Benoît, bienvenue à tous.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Même les prisonniers meurent en prison, on ne sait plus quoi faire. C'est l'heure de votre départ, Ariel Henry. S'est poumonné hier cette manifestante à Port-au-Prince à l'encontre du Premier ministre haïtien. Dans la capitale et en province, les mobilisations se poursuivent, comme au Gonaïve dans le nord, où Ronel Paul est allé interroger quelques habitants sur la situation.
Le gouvernement d'Ariel Henry arrive à un point de non-retour qui l'amènera obligatoirement à la démission, estime Sadrach Charles, professeur de sciences sociales. Pour lui, ce gouvernement impopulaire a pris des décisions irréfléchies qui ont provoqué la colère de la population. L'augmentation des prix du carburant fut la dernière goutte d'eau.
Nous trouvons une situation, je veux dire, là.
Nous nous trouvons dans une situation où la population ne s'identifie pas à Ariel, parce que le Premier ministre n'inspire pas confiance. La population voit Ariel Henry comme un Premier ministre qui travaille pour la communauté internationale. On pourrait même dire que c'est un envoyé des États-Unis. On dirait que Ariel Henry est un gouverneur nommé par les États-Unis en Haïti. C'est comme si ce n'était pas un Haïtien.
Si Ariel Henry n'inspire pas confiance à la population, il est tout de même soutenu par la communauté internationale, se désole Pierre-Robert Auguste. Pour lui, maintenir Ariel Henry au pouvoir, alors qu'il n'est pas en mesure de résoudre les problèmes qui rongent le pays, est une violation des principes mêmes des Nations Unies. L'entrepreneur invite la communauté internationale à respecter les droits à l'autodétermination du peuple haïtien.
On ne comprend pas comment la communauté internationale, à travers deux structures, Buni et Corgroup, commettent autant de bêtises en Haïti. La décision claire de cette même phrase de la communauté internationale de maintenir au pouvoir un premier ministre décrié par le peuple, là, il y a un grave problème. Ce qui risque de se passer, c'est que un malheur épouvantable, je ne peux pas prédire lequel je ne suis pas devin, donc pourrait dénouer cette crise.
Pour Caristène Fleurmont, puisque les manifestants réclament désormais le départ d'Ariel Henry, dans ce contexte, il n'a d'autre choix que de tirer la révérence.
Monsieur Ariel Henry est responsable de sa défaite à la tête du pays comme étant chef du gouvernement. Ariel Henry ne fait que d'augmenter nos problèmes, puisqu'il augmente nos problèmes alors que diriger, ce n'est que poser les problèmes et les résoudre. Monsieur Ariel Henry s'est montré incapable vis-à-vis de nos souffrances, vis-à-vis de notre misère, vis-à-vis de notre pauvreté, vis-à-vis de la corruption qui se pratique au sein de l'administration publique. Monsieur Ariel Henry n'a d'autre choix que plier bagage.
Wilfort Ferdinand, ancien membre du Front Résistance, le groupe de rebelles qui avait poussé à l'exil le président Jean-Bertrand Aristide en 2004, menace de bloquer le Grand Nord si Ariel Henry ne démissionne pas. Ronel Paul Gonaïve, RFI.
Un Premier ministre incapable qui n'a d'autre choix que de partir, vous l'avez entendu. Bonjour Jean-Marie Théoda.
Bonjour.
Maître de conférence en géographie à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Merci d'être avec nous. Ariel Henry, acculé, vous partagez ce sentiment de vos compatriotes?
Vous savez, lorsque on n'a même pas la légitimité dans l'exercice du pouvoir, commettre une bévue comme de décider l'augmentation du prix du carburant à un moment aussi crucial, c'est-à-dire à la veille de la rentrée des classes, au moment où les familles sont le plus en quête de numéraire, c'était une bêtise inouïe. C'est la preuve que non seulement il n'était pas légitime, ceci nous le savions déjà, mais ce qu'en plus, il n'est pas l'homme du moment. Donc, dire qu'il est acculé, c'est véritablement une litote.
On le rappelle, Ariel Henry, nommé 2 jours avant l'assassinat du président Jovenel Moïse l'an dernier depuis. Donc, au pouvoir en Haïti, ces manifestations, est-ce que vous considérez qu'elles sont aujourd'hui à un point de bascule? On est là véritablement dans un tournant ou pas?
Alors, c'est un tournant au sens que l'insécurité qui, jusqu'à présent, avait mis le pays véritablement entre parenthèses depuis pratiquement plus d'une année, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est-à-dire la rue appartenait véritablement aux gangsters. Aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle forme de mouvements sociaux, c'est-à-dire ce sont affecter les gens de tous les jours. C'est-à-dire, c'est le ménager et la ménagère qui prennent le béton pour aller dire au gouvernement que la mesure est excessive. Donc, que le gouvernement soit aujourd'hui au bout du rouleau, c'était déjà le cas parce que les gangsters étaient mieux armés que les représentants légitimes de l'État. Et si aujourd'hui, la majorité silencieuse, à son tour, se met en mouvement, on peut se demander maintenant, légitimement, comment les gangsters vont-ils réagir en face quand on sait que ce sont ces mêmes gangsters qui avaient été utilisés à partir de 2017-2018 pour écraser les mouvements sociaux qui appelaient déjà, à l'époque, à la démission d'un gouvernement incapable, le gouvernement de Jovenel Moïse.
Des gens de tous les jours, vous dites, Jean-Marie Théodat, néanmoins, on l'a entendu, au Gonaïve, l'ancien chef rebelle, Latiwil, qui a participé à faire tomber, on s'en souvient, le président d'alors, Jean-Bertrand Aristide, en 2004. Il a pris la tête des cortèges. Comment est-ce que vous comprenez ce retour au devant de la contestation de sa part?
Cela montre que le désarroi et le dépit traversent véritablement toutes les générations aujourd'hui. C'est-à-dire la génération qui historiquement avait participé à la chute de la dictature des Duvaliers, mais qui est aujourd'hui totalement dépassée, à la fois physiquement par, on va dire, le verdict de l'âge, mais également par la complexité des enjeux aujourd'hui, qui ne sont plus du tout les mêmes qu'à la chute de Duvalier en 1986. Tout cela montre cependant qu'il y a eu un déplacement des lignes avec un rejet, j'ai envie de dire, un vomissement global de tout le système représenté par Ariel Henry. Aujourd'hui, c'est le nom de Ariel Henry qui arrive en premier lorsque nous voyons les manifestants dans la rue, mais en fait, c'est toute son équipe qui mérite aujourd'hui d'être balayée parce que ces gens ont été incapable de faire face à une situation d'urgence absolue.
Et justement, Jean-Marie Théodat, imaginons Ariel Henry prend la porte, mais qui pour le remplacer? Est-ce que la relève est là?
Le problème, c'est que la relève n'était déjà pas là, parce que Ariel Henry ne contrôle rien. Donc, lui ou le chaos, il n'y a pas de véritable différence. Mais au moins, il y aurait de la place pour que la communauté internationale se tourne vers des politiciens responsables, des gens capables au moins d'assumer la conduite.
Mais il y en a qui sont prêts à intervenir, des politiciens responsables?
Mais bien entendu. Il y a entre autres les gens de l'accord de Montana qui sont des politiciens chevronnés, des gens qui non seulement ont des compétences mais aussi ont des convictions sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, mais on semble les considérer comme quantité négligeable. Donc on a besoin que la communauté internationale franchisse le Rubicon de faire la confiance à des gens qui sont véritablement responsables et non à des voyous, comme c'est le cas depuis des dizaines d'années en Haïti.
Justement, Jean-Marie Théodat, dernière question. Hier, devant le Congrès américain, l'ex-ambassadrice des États-Unis en Haïti, Pamela White, a déclaré, je cite, qu'il était temps d'arrêter de prétendre que la diplomatie normale fonctionne en Haïti. Il faut, selon elle, des bottes sur le terrain haïtien dès maintenant.
Mais je pense que Pamela White, en dépit de l'appui qu'elle apporte aujourd'hui tardivement au mouvement populaire, a raison. Mais cependant, d'abord, il n'y a jamais eu de diplomatie normale en Haïti. Ce pays n'a jamais été traité comme un pays normal, c'est-à-dire le core group a toujours eu un rôle indigne dans la conduite des activités politiques et diplomatiques en Haïti. Et par ailleurs, si bottes il le faut, nous préférons que ce soit des bottes amis, parce que des bottes, il y en a déjà en Haïti. Il y en aurait même trop. Si bottes est une métaphore pour parler d'armes, de fusils et de munitions, les gangsters font déjà le travail. Nous n'avons pas besoin de bottes de militaires, nous avons besoin de cerveaux, nous avons besoin de gens véritablement courageux, capables de s'asseoir à une table de discussion pour dire aux Haïtiens comment nous allons ensemble faire face à l'avenir.
Jean-Marie Théodat, maître de conférence à l'Université Paris 1, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans notre rendez-vous. Il est 9h19 à Port-au-Prince, la même heure à Rio, le Brésil. Prochain arrêt.
RFI, as vozes do mundo.
Ça a bien failli tourner au pugilat hier soir sur la télévision brésilienne. Bonjour Christophe Pagé.
Bonjour.
C'était le dernier débat entre les candidats du premier tour de la présidentielle de dimanche.
Et les insultes ont entravé ce débat final entre les candidats à la présidence, titrant une Correio Brasiliense qui parle d'un débat confus, belliqueux même selon au Globo. Un débat marqué par des échanges musclés d'accusations, principalement entre les candidats Lula et Bolsonaro, sur les 7 candidats présents. Les propositions sont passées au second plan, déplore Correio Brasiliense, comme en témoignent d'ailleurs ces noms d'oiseaux échangés par les deux principaux candidats.
Ne mentez pas, c'est pas joli un président qui ment tout le temps, sans punir.
Menteur, ancien prisonnier, traître à la patrie.
Traidor da patria.
Un président vient ici pour dire ce genre de choses, c'est pour ça que le peuple va te renvoyer à la maison.
O povo vai te mandar pra casa.
Au Globo note qu'au vu des derniers sondages qui placent Lula largement en tête, il était naturel que l'ancien président devienne la cible privilégiée de ses opposants. Jair Bolsonaro, l'actuel président, a concentré ses attaques sur des allégations de corruption qui ont marqué les gouvernements du PT de Lula. Les autres candidats ont fait de même. Alors que note le journal, ce thème n'avait pas intéressé les électeurs pendant la campagne. Autre sujet abordé, détaille Folha de São Paulo, l'économie, mais comme une béquille dans le débat, alors que le risque de récession dans les principales économies entre dans le radar des plus grandes institutions financières. Au final, estime au Globo, un débat sans grand gagnant qui n'a pas changé la tendance de la campagne. Lula reste le favori, mais sa victoire au premier tour n'est toujours pas évidente.
Et comment cette élection est-elle vue en Amazonie, région qui a beaucoup souffert sous le mandat de Bolsonaro sur le plan environnemental, mais aussi et surtout sanitaire avec le Covid. Reportage dans la capitale Manaus de notre envoyé spécial, Arim Lipold.
Eliane, la soixantaine, est en train de faire ses courses dans le centre-ville. Sur la vitre arrière de sa voiture, elle a collé une grande affiche de Jair Bolsonaro. Elle fait partie d'une association de médecins qui soutient le président sortant. Que pense-t-elle de la gestion du Covid par le président? Une gestion qu'une commission parlementaire brésilienne a jugée criminelle.
Tout ce qu'il a pu faire contre le Covid, il l'a fait. Il y a beaucoup de mensonges qui circulent à ce sujet. Ce sont des légendes, de fausses informations. Je peux vous assurer que tout ce qu'on a dit en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays sur le président au sujet du Covid, ce sont des mensonges.
Un discours qui laisse pantois Vanda Vitoto, une infirmière autochtone qui vit dans un quartier amérindien au nord de Manaus, surnommé Parque das Tribos.
Et là vient la pandémie.
La pandémie m'a marqué à jamais. Nous avons vécu d'une manière plus cruelle encore l'abandon par l'État. Ma communauté n'a reçu aucune aide, ni du ministère de la Santé, ni des autorités municipales. Aucune ambulance n'est venue chercher les malades. Les gens mouraient et les seuls qui sont venus, c'était les pompes funèbres pour chercher les corps et les jeter dans des fosses communes à Manaus. Nous avons vécu une violence très forte pendant la pandémie.
Bouleversée par ce drame, Vanda Vitoto a décidé de se lancer dans la politique. Elle brigue un siège à la Chambre des députés de Brasilia. La jeune femme a reçu le soutien de Lula, mais elle a encore du mal à convaincre certains de ses voisins autochtones. Chicão, par exemple, ne veut pas lâcher Jair Bolsonaro, il votera pour lui dimanche prochain. Alors que la fumée des incendies en provenance du sud de l'Amazonie a déjà atteint Manaus, il met en doute la gravité de la déforestation.
Je ne sais pas, il parle de la déforestation, mais moi quand je monte le Rio Negro vers Santa Isabel, je ne vois pas de déforestation, seulement de la forêt, et encore de la forêt. La déforestation, ça doit être plus dans les états de Pará et de Maranhão, à côté des autoroutes.
Destruction de l'environnement, gestion catastrophique du Covid, le bilan de Jair Bolsonaro en Amazonie est lourd, estime la journaliste Katia Brasil, sans parler de la précarité qui a augmenté énormément.
Il y a des personnes aujourd'hui qui meurent de faim au Brésil. Les personnes démunies, les Noirs et les Autochtones. Ces derniers qui vivent et travaillent dans les banlieues des grandes villes, ils souffrent de la faim. Il faut aider ces banlieues, monter des programmes d'éducation.
Katia Brasil espère une victoire de Lula avec impatience, si possible au premier tour. Pour Eliane, la fervente bolsonariste, un tel scénario signifierait forcément que les élections sont truquées.
Si Bolsonaro ne gagne pas au premier tour, vous pouvez être sûr qu'il y a eu fraude, que des urnes ont été volées et qu'il y a eu des irrégularités.
Comme des milliers de sympathisants de Jair Bolsonaro, elle a déjà décidé de ne pas reconnaître une éventuelle victoire de Lula. Achim Mipolt, Manaus, RFI.
Et on analysera ce premier tour lundi avec notre invité dans ce rendez-vous. Après avoir semé la désolation à Cuba et en Floride, où au moins 19 personnes sont mortes, selon CNN, l'ouragan Yann poursuit sa route le long de la côte est des États-Unis. Yann qui fait toujours la une de la presse aux États-Unis, Christophe.
Oui, même s'il a été rétrogradé en catégorie 1, mais il doit à nouveau se renforcer alors qu'il est en route vers les Carolines du Nord et du Sud, écrit le Boston Globe, où on s'attend à ce qu'il fasse de nouveaux ravages. Le quotidien reproduit une photo de maisons détruites, de palmiers brisés. Au premier plan, une habitante erre de l'eau jusqu'aux genoux. Le New York Times remarque que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui à une époque s'opposait à l'aide gouvernementale suite aux ouragans, demande maintenant l'aide du président qu'il a durement critiqué. Explication du Miami Herald. Après un tel désastre, les besoins seront énormes pendant des années. Ce que DeSantis n'a peut-être pas compris que lorsque, tout juste élu gouverneur, il avait voté contre l'aide prévue pour ceux qui, à New York et dans le New Jersey, avaient été frappés par Sandy en 2013. Il avait plus tard expliqué que selon lui, l'argent avait été versé pendant trop longtemps et était utilisé pour ce qui ne pourrait pas être considéré comme des urgences. Avec Yann, le gouverneur a donc changé d'opinion. Et de toute façon, s'exclame le journal, nous n'en avons rien à faire. Que Biden ou DeSantis se parlent ou pas, du moment qu'ils coopèrent sur l'ouragan.
Christophe Pagé pour la presse, merci beaucoup. En bref, juste sachez qu'au Paraguay, des milliers d'urnes électroniques ont été détruites lors d'un incendie dans le tribunal supérieur de justice électorale, un sinistre qui a fait au moins un mort. C'est à retrouver dans votre revue de presse sur notre site internet, Christophe.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
On est en Guadeloupe où une unité mobile de traitement de l'eau a été mise en service hier à Pointe-à-Pitre.
Et en présence du préfet, cette unité de dessalement, capable de produire jusqu'à 50 000 litres d'eau par jour, était évidemment très attendue par tous les foyers guadeloupéens, toujours privés d'eau depuis le passage non pas de Yann, mais de la tempête Fiona. L'unité de traitement de l'eau a été installée par des personnels de la sécurité civile du Var, sous l'autorité du lieutenant-colonel Didier Talbot.
On a plusieurs modes de distribution, soit il y a les gros camions et puis également nous proposons des sachets d'un litre qui sont plus pratiques à transporter pour la population, pour lequel il y a une date de péremption directement écrite sur le sachet. Nous appuyons également les communes pour distribuer de l'eau en pack qui est fournie par les autorités préfectorales pour aider à la distribution dans tous les quartiers qui en ont besoin. Pour l'instant, nous avons pu distribuer 86 000 litres d'eau en bouteille donc sur les différentes communes Le Gosier, Sainte-Anne et Saint-François, avec un effort sur Saint-François, puisque c'est là où il y avait le plus grand nombre d'habitants touchés par les coupures d'eau. Et nous avons également installé des citernes d'eau sanitaire sur différents sites, en libre accès, où la population va pouvoir venir et utiliser des robinets pour remplir des contenants afin d'avoir de l'eau sanitaire pour chez eux.
Direction la Martinique maintenant. La Martinique où plus de 7% de la population serait touchée par le diabète. C'est donc un véritable enjeu de santé publique pour l'île des Antilles, comme d'ailleurs, hélas, quasiment partout en Outre-mer. Anne-Laure Duféal.
On constate une consommation excessive de sucre en Martinique et plus de la moitié de la population est en surpoids ou obèse. Tous ces éléments favorisent la maladie avec pour conséquence un fort taux de diabète de type 2 sur l'île. On remarque également que peu de gens fréquentent les centres d'information et de prévention. Donc ce manque de sensibilisation de la population joue un rôle clé dans l'épidémie de diabète en Martinique. Il existe aussi un autre facteur tel que le caractère génétique de la maladie. Les Afro-Caribéens et les gens d'origine africaine ont une prédisposition. Quoi qu'il en soit, le diabète est une maladie en constante progression sur notre île. Alors comment l'éviter? À défaut d'une politique de santé publique efficace sur cette question, une activité physique régulière ou au moins 30 minutes d'exercice par jour liée avec une alimentation plus équilibrée réduisent le risque de diabète.
qu'on se le dise. Bon après-midi, bon week-end, Mickaël. À lundi.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Merci à Hélène Avril qui était à la réalisation de notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques, à retrouver comme chaque jour, vous le savez, sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur Twitter via les liens postés sur le compte RFI Amérique. Très bonne journée.